France Inter.
Et ancienne psychiatre Lydie Salver publie au Seuil depuis toujours « Nous aimons les dimanches », satire drôlatique, enlevée et rythmée, pleine de fureur et d'effroi, contre ce qu'elle nomme « les apologistes du travail des autres », soit les puissants exploitant la sueur des laborieux. Les laborieux, ce sont ceux qui travaillent toujours plus, sans jouir du fruit de leur besogne, sans pouvoir penser, contempler, rêver ou créer, c'est-à-dire la majorité de l'humanité. Dans la lignée du droit à la paresse, le manifeste social de Paul Lafargue, paru en 1880, ou encore de l'éloge de l'oisiveté de Bertrand Russell, paru en 1932, Lydie Salver démontre l'absurdité d'une vie dédiée à un volume de travail excessif et invite à reprendre le pouvoir autant sur sa psyché que sur son agenda. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Lydie Salver.
Bonsoir Eva Bester.
Par quoi avez-vous été le plus préoccupée aujourd'hui ?
Aujourd'hui, j'ai pris le train pour venir à votre rendez-vous pendant 3 heures. Et ma pensée s'est promenée le long des rails. Elle s'est fixée sur des trucs du paysage.
Vous avez vu des animaux ?
Non, des campagnes, des forêts, des champs. Et voilà, ma pensée s'est promenée, ma pensée a paressé. Et je me suis dit que j'aurais dû dire dans ce texte que le train est un moyen merveilleux pour que l'âme paraisse. Non mais vraiment, et je ne suis pas la seule à le dire.
La colère est un moteur d'écriture chez vous. Vous dites, Lydie Salver, aimez faire la guerre dans vos livres. Quel degré de colère éprouvez-vous ce soir ?
Ben avec vous, vraiment, pas de colère du tout.
Ah bon, je suis contente.
Mais j'ai de la colère pour des sujets particuliers qui me révoltent, qui me rendent indocile, paraît-il.
Mais avez-vous déjà été docile ?
Ben, comme tout le monde, quand j'étais une enfant, et même aujourd'hui, bien sûr, il y a des choses contre quoi on ne peut qu'être docile, mais il y a en moi quand même quelque chose qui trépigne du côté de l'indocilité.
Vous avez été psychiatre et pédopsychiatre, vous connaissez donc les troubles des psychés humaines, mais cela vous a-t-il aussi aidé pour ausculter la société, ce que vous faites dans votre dernier livre et aussi dans le précédent irréfutable essai de successologie ?
Mais oui, parce que le travail a des incidences aussi sur la psyché humaine. Le travail, on le sait, peut conduire à la dépression, peut nous abattre. Il paraît qu'il fait du bien à certains,
vous n'y croyez
pas ? Qu'il les épanouit. Quand on a choisi son travail, quand on l'aime, quand on est créateur, quand on a de l'initiative dans son travail, je peux penser qu'il soit satisfaisant. Mais je pense à tous ceux pour qui le travail est une contrainte, une fatigue, un épuisement, pire, une indignité.
Chez vous, Lydie Salver, il y a de la colère, de l'indignation, mais toujours de l'ironie, de l'humour. Vous dites que l'esprit de sérieux vous terrorise.
Oui, ça me fait très peur. mais parce que j'aime les lectures dans lesquelles sont dénoncées joyeusement des choses graves.
Vous avez des exemples ?
Mais plein. Avant de commencer cette émission, nous parlions des satiristes. Je suis saisie d'un violent amour pour les satiristes depuis Swift, 17e. Champfort, avant les moralistes. Voltaire, récemment Ambrose Bierce, dont on reparlera, j'espère. Il y a toute une lignée de satiristes qui disent en 3 mots ce que les autres disent en 100 et qui parient sur l'humour, sur le rire, pour dénoncer les travers de la société et les faiblesses humaines. Et je me suis pris vraiment de passion pour cette lignée de satiristes, et je trouve qu'elle manque aujourd'hui.
C'est vrai.
Elle manque. Il manque des voix qui justement, des voix indociles, des voix qui secouent, des voix sont tout sauf passives et léthargiques et soumises et fatalistes.
Il y a des cris aujourd'hui, mais pas les cris des satiristes avec de l'humour.
Oui.
On manque beaucoup d'humour.
Sans doute.
Et pourtant, on a pu rire à toutes les époques. Donc, les personnes qui diraient, pour prévenir notre argument, c'est parce que le siècle ne se prête plus au rire, on pourrait...
Non.
C'est faux.
Mais alors pourquoi ? Pourquoi il n'y a plus de satiristes tels...
Le monde est désespéré ?
je ne sais pas.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous prendre en flagrant délit de prise au sérieux, Lydie Salvert ?
Oh, sûrement ! Quand je suis intimidée, je fais ma prof, comme je dis. je me mets à faire des citations, à essayer d'être convaincante, etc. C'est très mauvais signe chez moi.
Sky smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my how they fly.
Lana Del Rey, le morceau Blue Skies.
Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
Lydie Salvert, nous évoquons votre ouvrage satirique Depuis toujours nous aimons les dimanches, paru au Seuil et dans lequel vous faites l'éloge de l'oisiveté avec en exergue cette citation d'Albert Camus, il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Mais alors pourquoi glorifie-t-on tant la peine selon vous ?
C'est un préjugé, nous dit Monsieur Russell, des classes bourgeoises qui veulent absolument qu'on fasse l'éloge du travail parce que ça leur rapporte 1000 avantages et les travailleurs sont, les non-travailleurs sont jugés comme condamnables, paresseux, etc. Ils développent cet argument. Très sérieux, vous voyez, dans son éloge de l'oisiveté, je crois qu'il l'a écrit en 1930, déjà, pour s'insurger, justement, contre cette morale obligatoire du travail, contre cette valeur travail chantée par les tenants de la grande industrie et la bourgeoisie, qui supportait mal, disait-il, de voir les travailleurs avoir les mêmes loisirs qu'elles, et qui... pronostiquer que si les travailleurs devenaient paresseux, ils sombreraient dans l'alcoolisme et la déchéance. C'était ça les idées du siècle précédent.
Vous dépeignez un monde et un environnement hostile, et même l'âge adulte semble loin de tout plaisir quand vous écrivez la nostalgie du bonheur des journées d'enfance où une fièvre providentielle nous forçait à garder le lit. Je vous lis, Lydie Salvert, assoiffée d'absolu, enivrée d'infini, la peur du ridicule par l'emploi de grands mots ne nous attendra que plus tard. Autant de voluptés indicibles que nous ne cesserons de chercher le restant de nos jours, mais qui n'atteindront que rarement l'enchantement, l'émerveillement, la plénitude, la grâce de ces heures d'enfance durant lesquelles nous faisions de la paresse l'un des plus hauts plaisirs de l'âme. Mais n'idéalisons-nous pas aisément l'enfance en s'en éloignant ?
Sûrement, sûrement. Et c'est vrai que j'ai encore, encore aujourd'hui, le souvenir délicieux de ces moments passés au lit, malade, qui me soustrayait à l'école, et où je lisais Sans famille et autres romans délicieux.
Alors justement, c'est amusant que vous citiez Sans famille, les aventures de ce Rémi qui n'a pas de famille, écrite par Hector Malot, puisque dans votre livre, vous parlez de sa chance inouïe de grandir sans famille.
Oui, j'ai une dent contre la famille... qui emprisonne, qui enferme, qui nous oblige à des rites, dont plutôt j'ai constaté lorsque j'étais pédopsychiatre quel était le premier endroit de l'aliénation. Vraiment, vraiment. Des enfants déjà soumis à un discours paternel, déjà pris dans les mailles de la famille, et j'ai vu tous les dégâts aussi, mais d'autres diront tous les bonheurs qu'apporte la famille, et bien sûr qu'il y a, je serais stupide de dire que la famille n'amène que des chagrins et des malheurs, elle amène aussi beaucoup d'aliénation, me semble-t-il.
Vos parents étaient des républicains espagnols qui se sont exilés dans le sud de la France pour fuir le franquisme. Vous avez grandi près de Toulouse dans une colonie de réfugiés espagnols. Je sais que vous savez déjà tout ça, hein, mais je le dis pour les auditeurs qui ne sont pas familiers avec votre histoire. Le français n'est d'ailleurs pas votre langue maternelle, Lydie Salvert. Est-ce que vous avez pensé à vos parents en écrivant depuis toujours « Nous aimons les dimanches » ?
Mais bien sûr. Et impossible de penser que le travail que faisait mon père, il était travaillé dans le bâtiment, soit un travail émancipateur, libérateur, épanouissant, que dit-on encore, lieu du lien social, lieu de réalisation de soi, qu'on ne vienne pas me la raconter. pas avec ces métiers-là, vraiment, vraiment.
Puisqu'on parle de famille, vous faites allusion au chat Arthur et à la chienne Nana. Font-ils partie de votre famille ?
Absolument.
Et comment se portent-ils ?
Ma chienne Nana est un pur délice d'intelligence, de loyauté, de tendresse. Je l'aime.
Ça donne-t-il à la paresse sans culpabilité ?
Mais absolument !
Ah oui !
C'est un exemple de bourreau de paresse.
Est-ce que vous nous feriez l'honneur de lire un extrait de votre livre, par exemple la première page ?
Allez. Depuis toujours, nous aimons les dimanches. Depuis toujours, nous aimons nous réveiller sans l'horrible sonnerie du matin qui fait chuter nos rêves et les ampute à vif. Nous aimons rester longuement les yeux fermés dans la pénombre et enlisés dans la douceur des draps. Nous aimons nous déplier lentement, lentement nous ouvrir, nous déployer, nous répandre. Nous aimons retrouver la douceur de la main qui dort sur notre épaule et sentir que notre corps est chaud, sensuel, qu'il bat, qu'il est vivant, encore ensommeillé mais vivant et parfaitement improductif.
Vous jubilez en prononçant le mot improductif, Lydie Salvert. Merci pour cet extrait de Depuis toujours, nous aimons les dimanches. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ?
C'est que j'entendais autour de moi, depuis la crise sanitaire surtout, un grand nombre de gens reconsidérer leur vie à l'occasion du confinement et reconsidérer le travail. Est-ce que le travail me satisfait? Est-ce qu'il me laisse le temps de vivre? Est-ce que les horaires auxquels il m'astreint sont supportables? Est-ce qu'il a un sens? Est-ce qu'il me laisse un peu d'initiative ou pas du tout? Toutes ces questions, me semble-t-il, ont fleuri au moment du confinement, se sont exprimées dans pas mal de livres de témoignages, ont fait l'objet de recherches en sciences sociales et du travail très nombreuses, et à côté de ça, une surdité des décideurs politiques et du gouvernement que j'ai trouvé sidérante.
Vous le clamez dans votre livre, Lydie Salver, la paresse n'est pas molasserie, n'est pas intoxication cannabique, n'est pas délectation morose. La paresse est un art subtil, discret et bienfaisant. La paresse n'est ni plus ni moins qu'une philosophie. En vous lisant, chez le lecteur, est suscité un grand désir de paresse, mais comment le combler sans être puni?
C'est toute la question. D'où l'intérêt de poser, de faire l'éloge de la paresse comme contestation de cette valeur travail. Et c'est juste à ça qu'elle sert, la paresse, dans ce livre. C'est à essayer de réfléchir et de remettre en cause cette valeur qui a l'air établie à tout jamais, alors que dans les sociétés pré-industrielles, par exemple, le travail n'était pas du tout conçu comme il l'est aujourd'hui. Le travail était un moyen pour satisfaire des besoins. Aujourd'hui, le travail est un moyen pour produire des besoins, pour produire et produire des besoins, pour pousser à la consommation et à la consommation et à la consommation. On peut s'interroger là-dessus. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager les choses autrement, par exemple? Essayer de répartir le travail entre tous, plutôt que de laisser certains travailler considérablement et d'autres être au chômage, j'allais dire.
En parlant justement de mots qui ont des sonorités communes, Lydie Salver, la langue, comme toujours chez vous, est très riche et j'emploierai le mot baroque, déjà pour rendre hommage à Cervantes sur lequel vous avez écrit, mais aussi pour l'éclectisme des registres. Tantôt soutenu, tantôt grossier, vous vous amusez en écrivant.
Oui, j'essaie et j'adore justement donner la voix à tous les registres qui sont en nous. Voilà, le registre poétique par moment, le registre rageur à d'autres, le registre sérieux encore à d'autres, le registre lyrique éventuellement, ou drôle. Et je trouve que la littérature est belle lorsqu'elle donne la voix à tous ces registres de langue et pas à un seul.
Vous avez une langue musicale, on lit lambiné, musé, musardé, badaudé juste à côté, mais aussi inexorable, incontestable, irréfutable, incontournable, impérissable, indépassable, irréfragable, indétrônable, indispensable. Vous utilisez un dictionnaire des synonymes?
Mais j'ai un maître, c'est Rabelais.
Ah.
Et son inventaire d'épithètes, quand bon lui semble, et ses listes de mots magnifiques.
Alors pour enrichir sa langue, vous conseilleriez, Lydie Salver, aux auditeurs de lire Rabelais?
Oui, pas seulement pour cela, mais aussi pour être insolent, pour remettre en cause plein de choses, oui, pour être indocile, pour être blasphématoire. C'est ça Rabelais, c'est pour ça qu'on l'aime.
Ce qui est amusant, c'est que vous blasphémez justement contre beaucoup de choses dans ce livre, mais aussi contre vous-même. Vous interpellez l'ami Salver, connu pour ses plaisanteries d'une incorrigible grossièreté. Vous allez même jusqu'à l'envoyer balader à un moment.
Ça m'amusait beaucoup. Ça m'amusait beaucoup de pointer du doigt la Salver qui a mauvais esprit, qui est grossière parfois, injurieuse parfois.
Quels sont vos rapports avec cette Salver, Lydie Salver?
C'est ma copine.
Vous entendez bien?
Oui, ça va.
Vous vous disputez jamais?
J'ai des débats.
Argumentés, j'imagine.
Bien sûr, très argumentés.
Il y a une réflexion aussi dans ce livre sur la langue elle-même qui risque de s'anémier à force de ne servir qu'à communiquer.
Oui. C'est justement défendre la langue dite littéraire contre la langue de la com. Et je reprends ce mauvais jeu de mots Comu-Niké. J'ai honte aussitôt, mais c'est Elfriede Jelinek qui fait ce jeu de mots-là. Oui. Vous voyez, tout de suite
vous
une citation d'un prix Nobel pour faire passer la chose.
Les deux sont délicieux.
Oui.
Sans issue de secours, aux lueurs pâles de la nuit qui cède au jour, se joue le bal de la vie et de ses amours, ceux qui s'effacent et ceux qui resteront toujours.
Un grand bal qui s'étale, ravissant, insensé, 100 000 âmes qui s'emballent devant mes yeux cloués. Certains dansent, d'autres y pensent, et puis lui qui s'avance. En quelques pas de danse, c'est vrai, j'ai flanché, genoux au sol. On a dansé sous les valses folles.
Dans cette salle sans issue de secours,
brillant le bal me rappelle à mes amours.
Premier fil se confondra d'autres contours.
Qu'un coup de cil m'a fait perdre pour toujours.
C'est sans mal, je l'avoue, que déroule sous mes doigts une première cavalière, une deuxième et puis trois.
Je m'emballe et me perds dans cette salle bondée où tourbillonne autant de beauté.
J'y perdrai.
Mes yeux se figent sur un beau portrait qui semble lassé d'une étreinte trop serrée. D'un geste se dégage et fend dans l'assemblée.
Me rejoint pour une danse à ses côtés.
On a dansé des années à perdre la tête.
J'en garde encore quelques ampoules assez discrètes. Mais souvent les valses se soufflent avant la fin. Proche et pourtant bien assez loin.
Voyou et Vanessa Paradis, le bal.
Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
Lydie Salvert, dans votre livre « Depuis toujours, nous aimons les dimanches », vous démontrez, je cite, « que la paresse est la manière heureuse et chérie des poètes de résister au mandement que le monde marchand nous inflige avec son ventre énorme et ses dents carnassières. » Et vous ajoutez que nous sommes amers de constater que le monde pour lequel nous œuvrions n'était nullement nôtre et que ses obsessions, sa langue et ses valeurs n'étaient nullement nôtres, accablés de ne pouvoir agir en rien sur le temps et les règles qu'on nous fixait, de ne pouvoir jouir en rien des richesses que nous créions. Karl Marx et Charles Baudelaire sont en studio avec nous. Et alors cette question obligatoire, Lydie Salvert, est-ce que l'écriture est un travail ?
Pas un travail, si le travail est cette chose obligatoire, salariée, contraignante, sans création, etc. C'est une chose, c'est œuvrer, C'est œuvrer à quelque chose que je choisis librement, quand cela me plaît.
Ça n'a jamais été un labeur d'écrire.
Mais pas au sens du travail
évidemment,
tel qu'on le conçoit, les cadences effroyables et qui vous brisent. Bien sûr que parfois il faut revenir 100 fois sur une phrase pour qu'elle sonne juste, par exemple. Mais je n'arrive pas à considérer cette chose comme un travail au sens où on l'entend aujourd'hui.
Il paraît, enfin on apprend cela en vous lisant, Lydie Salvert, que la paresse est jazzy. On va se mettre dans l'ambiance alors.
Oui, on va écouter.
Oui, on en parle au-dessus, c'est juste pour avoir une ambiance jazzy avec vous, Lydie Salvert. C'est Miles Davis, Stella by Starlight, et je vous écoute.
Ben, je trouvais que la paresse déambulait dans nos rythmes intérieurs. Prenez ce temps d'aller chercher nos choses intimes, nos murmures, voilà, et avec volupté, avec lenteur, avec douceur, parfois.
Pour vous, la paresse n'est pas une inertie de l'esprit, mais au contraire, ouvre la pensée. Et là, justement, vous venez de dire qu'elle allait chercher nos choses intimes et nos pensées. Il faut absolument ne pas être occupé pour penser.
C'est ce que dit Monsieur Nietzsche. Il dit que difficile de penser quand on est soumis à des contraintes, à des obligations, à des pressions intérieures. C'est difficile de penser. C'est difficile. Il faut du temps pour penser. Et il faut que l'esprit puisse nager, disait Michaud. Il faut que cessent ces contraintes intérieures qui nous empêchent. C'est Valérie qui disait que nous avions besoin de ces pauses intimes, de ces vacances intimes, où l'esprit reprend sa liberté.
Pour penser, mais aussi pour créer.
Mais bien sûr.
Pour s'affranchir aussi, écrivez-vous.
Bien sûr. J'ai l'impression que ce sont des évidences, mais...
Non.
Mais non.
Non, on peut penser que pour s'affranchir, il faut travailler. Mais en fait, on est obligé de, j'allais dire s'ennuyer, mais en fait faire de la place pour cette chose qu'on croit être l'ennui.
Non, mais historiquement, le travail a été pensé comme émancipateur, comme nous rendant autonomes. Et c'était l'idée des socialistes, par exemple, qui ont beaucoup défendu la valeur travail comme émancipatrice. Mais si le travail finit par être cette chose qui nous soumet avec des rythmes tayloriens, avec des cadences exténuantes, avec des horaires insupportables, etc., comment dire que le travail est émancipateur ? C'est difficile.
Pour ce livre, vous êtes allé interroger une femme de ménage d'hôtel. Vous pouvez nous raconter ?
Oui, j'ai appris que ces femmes de ménage dans l'hôtel où je loge lorsque je viens à Paris faisaient des journées interminables, avaient un temps chronométré pour faire les différents travaux et étaient payées 1180 euros par mois. Est-ce qu'on peut parler de travail émancipateur dans ces conditions, c'est difficile.
Vous parlez des pouvoirs dans ce livre, Lydie Salvert, qui ont compris que toute pensée porte en elle un germe affreux d'insoumission, la regarde comme ce qu'il y a de plus à craindre.
C'est encore ce que disait Nietzsche. Il disait « Le travail est la meilleure des polices. » Parce que en occupant le travailleur, elle l'empêche de penser, donc de se révolter, donc de prendre conscience des conditions de son travail, etc., etc.
Mais on peut aussi ne rien faire et ne pas penser, et même être ce qu'on appelle dans le milieu un gros flemmard.
Sans doute, oui, bien sûr.
Ne craignez-vous pas d'idéaliser l'absence de travail ?
Mais c'était j'ai mis très volontairement la gomme sur la paresse, mais comme moyen vraiment de réfléchir au travail, à ses conditions aujourd'hui, à sa répartition injuste, à cette inégalité entre ceux qui, les tenants de la grande industrie, les grands bourgeois, qui vivent très, 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 très aisément. J'ai vu un titre du Monde il y a quelques jours qui disait que les actionnaires et le CAC 40 avaient des résultats extraordinaires, des profits extraordinaires. C'est difficile de voir ça et de voir que ma femme de ménage est payée 1180 euros dans le mois. Ça m'enrage.
Vous les appelez ceux qui ont pognon sur rue, mais sont-ils tous à condamner ?
Alors, il y a des entreprises qui font des efforts, il y a des entreprises qui ont repensé le management pour qu'il soit moins vertical, il y a des entreprises qui réfléchissent en ce moment à la semaine de 4 jours, je crois. Ça peut être intéressant, par exemple.
Est-ce que votre avis a évolué sur le travail ou ça a toujours été le même ?
Mais en lisant les grands philosophes qui ont réfléchi sur le travail, je suis devenue de plus en plus sombre, au contraire.
Ces apologistes du travail des autres, comme vous les nommez, Lydie Salvert, se taisent sur, je vous cite, les causes de l'abattardissement général et de la déliquescence spirituelle de notre nation qui met en péril nos bons citoyens. Quelles sont ces causes ?
Eh bien, justement, il semblerait, d'après ceux qui réfléchissent sur le travail, que plus le travail est abrutissant, moins il est reconnu, plus l'engagement dans la citoyenneté devient compliqué et difficile. Et les mêmes ont constaté que c'était les populations qui travaillaient de façon, dans des conditions de pénibilité très grandes et sans reconnaissance, qui donnaient leur voix au Rassemblement national, par exemple. Non, c'est un vrai travail qui a été mené. Je ne sais plus dire qui l'a fait, mais c'est un vrai, vrai travail qui a été mené.
Parfois, vous êtes sérieuse, Lydie Salvert, justement, puisque c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous soulignez la corruption du pouvoir et vous vous indignez qu'ils puissent reprocher aux travailleurs de vouloir travailler moins. Vous leur répondez en vous contenant, avec une simili-politesse, en 9 points réécrits 5 fois. Là, vous êtes sérieuse, l'heure est grave.
Mais bien sûr. Il faut que les puissants écoutent ce que leur disent les gens qui travaillent vraiment, écoutent tous ces chercheurs en sciences sociales et humaines qui écrivent sans arrêt sur la difficulté de travailler, sur le mal travail, sur la douleur au travail, sur le burn-out au travail. Inutile de rappeler le procès de France Télécom dans lequel 39 suicides ont eu lieu en 2008 ou 2009, je ne sais plus. Tellement les conditions étaient terribles, tellement le harcèlement était terrible, tellement les décisions venaient du haut vers le bas, sans que nul n'ait à discuter, etc. Mais bon, je crois que j'ai assez dit sur la chose.
Non. À qui aimeriez-vous donner votre livre à lire ? Aux puissants ? J'entends, mais peut-être à des statuts ou des pouvoirs en particulier.
Sans doute. Et à tous ceux qui font les lois aujourd'hui, qui contraignent le travail.
C'est très pensé. Il y a un côté satiriste, évidemment, à chaque page. On s'amuse et puis on plonge dans l'effroi, puisque c'est un constat de ce qui se passe dans la société. Il y a une critique du divertissement stupide, de la maladie des écrans et du grand marché de la consolation. Oui. Et j'aimerais bien lire un passage, parce que je pense que tout le monde pourra se reconnaître. Ateliers d'aquarelle, de macramé, d'improvisation poétique, de lecture à voix haute, de rumba, de zumba, de danse acrobatique, de saut de mouton, de cuisine végane, de cuisine exotique, de cuisine espagnole, de jardinage sur le balcon, de maquillage make-up, de couture pour tous, de bricolage et déco, de dessin au fusain, de chants et jeux vocaux, de gymnastique artistique, de magie blanche, de magie rose, de magie verte, d'introspection par l'écriture, de développement personnel, de rébellion en chambre. Autant d'amusettes charmantes grâce auxquelles on s'épuise à se désennuyer.
Mais comme on n'a pas appris à paresser, puisque la paresse est une éducation, nous dit Russell. Le travail terminé, on est terrorisé de se retrouver devant le vide abyssal et devant la peur de mourir et devant le néant qui nous attend, etc. Donc on se jette à corps perdu sur ce fameux marché de la consolation luxuriant et qui n'est qu'une continuation au fond impensée du travail. On travaille à se désennuyer.
Mais alors si la paresse s'apprend, comment apprendre à paresser, Lydie Salvert, là, les auditeurs qui nous écoutent, moi aussi je vous écoute et j'ai envie de savoir, comment paresser efficacement.
apprendre son temps pour lire, par exemple, apprendre à contempler un paysage, apprendre à regarder des heures devant El Perro Hundido de Goya.
Le chien a semi en
semi. Des choses qu'on s'accorde, qu'on peut s'accorder pour apprendre, apprendre à prendre ce temps.
Vous énoncez le slogan « Travaillez moins pour lire plus ».
Bien sûr, bien sûr. Et j'ai remarqué que les grands lecteurs étaient souvent de grands, grands paresseux.
Vous écrivez.
Et que certains lisaient au lit, bien sûr, pendant des heures.
C'est votre cas ?
C'est mon cas.
Oui, vous chuchotez.
Je l'avoue.
Vous écrivez. Si vous chantonnez le matin en allant au travail, c'est que 1, vous êtes millionnaire, 2, vous vous droguez, 3, vous êtes l'un des 7 nains.
C'est une blague que j'ai trouvée,
oui.
Que j'ai trouvée drôle sur la paresse et le travail.
Lydie Salvert, je vous ai demandé de choisir un morceau et vous avez choisi le morceau d'une autre écrivaine, c'est Chloé Delhomme, oui. Et le morceau c'est RTT à Trastevere. Un petit mot avant qu'on l'écoute.
Alors, je l'ai choisi pas seulement parce que j'aime Chloé Delhomme, l'écrivaine, mais je l'aime infiniment. Pas seulement parce que j'aime Chloé Delhomme, l'être humain, je l'aime infiniment, mais parce que je trouve que ses chansons sont délicieuses. Elle a une voix très, très douce, très délicate, très fragile, et des textes d'une force. Et je trouve que ce décalage entre cette voix presque enfantine, murmurer et des textes d'une grande force poétique et rageuse parfois m'enchante.
Elle a eu son week-end à Rome. RTT à Trastevere. Le ciel était d'un bleu valium. Elle déteste le goût du café. Elle a eu son week-end à Rome. Toutes les ruelles à arpenter. Elle n'y a rencontré personne qui lui dise reviens cet été. Reviens cet été.
Là, vous parlez d'Ambrose Bierce, dont on va parler dans un instant. Je rappelle juste le titre, Lydie Salvert, c'est Chloé Delhomme, RTT à Trastevere dans Grand Canal sur France Inter. Et voilà, on arrive justement à ce drôle de coco d'Ambrose Bierce, dont on manque aussi aujourd'hui.
Oui.
Et vous avez choisi comme découverte pour les auditeurs le délicieux Dictionnaire du Diable.
Chez Rivage Poche. Je le précise. Et juste pour donner envie de lire ce livre délicieux, quelques définitions. Applaudissements, deux points, écho d'une platitude. Écrivaillon, deux points, écrivain dont les vues ne s'accordent pas aux vôtres. brut, deux points, voire mari.
Vous les avez apprises par cœur, cette
définition ? Mais oui, parce qu'elles m'ont frappée. Conservateur, la dernière. Politicien qui affectionne les mots existants. C'est délicieux. Et comme ça, à l'infini.
On mettra évidemment la référence sur le site de l'émission. Oui. Revenons à « Depuis toujours, nous aimons les dimanches », votre dernier livre, Lydie Salvert. À un moment, vous avez cette formulation puissante. Vous évoquez ce qui nous est refusé, non pas de faire, mais d'être. Ce qui nous est refusé d'être. Ça touche aussi profond que cela.
Mais bien sûr. Mais bien sûr. Le travail nous transforme. Il transforme notre corps et il transforme notre psyché. Et il transforme le sujet que nous sommes. Il peut l'anéantir. Il peut l'anéantir. Il peut anéantir ses désirs, ses pensées, ses rêveries. Il peut, dans les meilleures conditions, le constituer comme sujet, et c'est génial.
C'est un cri pour enfin habiter nos vies. Vous y faites l'éloge des utopistes, et vous avez tout de même un peu de nuance, puisque vous concédez que ce n'est pas le travail qui nous déprime, c'est le travail exagéré. Vous proposez 15 heures par semaine.
Mais c'est encore Russell, vraiment, qui disait qu'avec les progrès technologiques, et avec l'abondance dans laquelle nous étions, nous pourrions travailler paisiblement 4 heures par jour, disait-il. Et son ami Keynes, qui était pourtant un libéral, qui pensait que le capitalisme était une période transitoire de l'histoire, lui pensait qu'avec 3 heures par semaine, nous pourrions très très bien vivre ensemble et dans le bonheur et la paix. C'est intéressant de relire ces gens, ils ne sont pas écoutés apparemment.
Non, tout comme Sénèque que vous citez et qui a le meilleur argument pour défendre la retraite. Quel fol oubli de la condition mortelle que de remettre à 50 ou 60 ans les projets de sagesse.
Mais oui, remettre sans cesse à plus tard et remettre à jamais, au fond, notre projet de vie, nos projets de vie, c'est terrible. Plutôt que de cueillir le jour, comme disait l'autre philosophe.
Lydie Salvert, vous faites référence dans votre texte à différentes figures ayant réfléchi à la notion de travail. Il y a Auguste Blanqui,
oui,
et son article au titre délicieux « Qui fait la soupe doit la manger ».
Mais oui. Ça paraît tellement évident et ça n'est pas le cas. Ceux qui mangent la soupe que vous fabriquez, ce sont souvent d'autres que vous.
Il y a aussi le poète écrivain libertaire anglais William Morris qui a initié le mouvement Arts and Craft. Oui. Et je suis très heureuse que vous le citiez, parce qu'il était pour la beauté, il a écrit des textes sur le socialisme merveilleux.
Oui.
Chaque artisan devait être bien traité, bien payé et faire des choses belles et utiles.
Et il disait que le travail idéal est le travail de l'artisan, celui qui peut profiter du produit qu'il a fabriqué, qui peut le tenir, le voir, comme une sorte d'idéal difficile à atteindre aujourd'hui.
Est-ce que vous pourriez rappeler aux auditeurs l'idée principale du phalanstère de Charles Fourier ?
Un travail attractif, qui serait comme le jeu d'un enfant, qui serait poétique, dans lequel les femmes seraient les égales des hommes. Pour ajouter un peu de folklore, dans lesquels il y aurait des fontaines de limonade sur ces lieux de travail. Et du coup, on l'a pas pris au sérieux, ce malheureux
créateur. Uniquement à cause de la limonade ?
Oui, et puis on lui disait, mais alors, si le travail est aussi poétique, comment produire des choses pour les vendre, etc.
Un mot sur Paul Lafargue, l'auteur du Droit à la paresse.
Ah, mais bien sûr, le Droit à la paresse. Donc Paul Lafargue, qui est le neveu de Marx, puisqu'il a épousé sa deuxième fille Laura, et qui va écrire le premier marxiste socialiste à écrire contre le devoir de travailler, contre. Et il dit que c'est une chose que souhaitent évidemment les tenants de la grande industrie, qui est une chose malheureusement que les travailleurs font leur. C'est ça qui le rend fou. Ils ne peuvent pas concevoir d'autres travail, d'autres façons de travailler que celles que leur inculquent les tenants de la grande industrie.
Parce qu'ils n'ont pas le temps de penser, puisqu'ils ne paraissent pas.
Exactement.
À un moment, vous arrivez à un axiome considérable que vous priez les puissants de méditer, Lydie Salvert. La paresse est une forme de travail. Qu'est-ce à dire ?
Eh bien, je cite un exemple Proust, qui pendant 30 années consécutives va remettre au lendemain le moment de se mettre à son œuvre. Mais ces 30 années seront follement productives, puisque pendant ce temps, germeront, mûriront les grandes idées de la recherche du temps perdu.
Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à cul nus, dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coinstos bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas.
Le poème de Boris Vian, Je voudrais pas crever, par Pierre Brasseur. Lydie Salvert, vous en recopiez des lignes dans votre livre.
Oui. Oui, il faut du temps pour ces voluptés. Et dépêchons-nous de les vivre avant qu'il ne soit trop tard.
Vous n'aimeriez pas mourir sans avoir fait quoi ?
Alors, sans avoir fait quoi ? Mettre mon nez dans des coins trop bizarres.
Vous avez remplacé le mot employé dans le poème, mais je laisserai les auditeurs.
J'ai pas osé reprendre le mot de Boris Vian.
Vous avez déjà mis votre nez dans des coins trop bizarres ?
Oh oui, sûrement.
Il y en a d'autres à prévoir, alors ?
Il y en a plein, sûrement, à découvrir.
Vous dites, Lydie Salvert, dans une interview dans la revue des Deux Mondes, « Plus je me sens mortelle, plus je me dis que je n'ai pas le temps, plus le temps pour écrire des romans. »
J'ai dit ça.
Oui.
C'est peut-être la raison pour laquelle j'écris des satires. La satire est plus rapide que le roman. Elle se perd pas en bavardage, elle ne vagabonde pas pour rien. C'est peut-être pour ça, mais bien que le désir me reprend là, de nouveau, d'aller vers le romanesque. J'écris plusieurs satires à la file, et peut-être le désir de paraisser dans un roman va revenir, peut-être.
Vous construisez les deux de la même façon ?
Pas du tout.
Alors, vous avez 10 secondes pour nous donner votre secret.
La satire, ce sont des jets de pierre. Il faut trouver la façon d'aller le plus vite possible. Et le roman, il faut prendre le temps des tours et des détours, on va le dire comme ça.
Merci beaucoup, Lydie Salvert.
Merci à vous.
Votre livre, Depuis toujours, nous aimons les dimanches, est paru aux éditions du Seuil le 1er mars dernier. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Estelle Gap. Programmation musicale, Juliette L'Orphelin. Technique, Benjamin Wagon.